Merci. Alors, enfin, je ne suis pas trop à l'aise, je veux dire, vis-à-vis de vous, parce que vous êtes des chercheurs, de véritables chercheurs, ce qui n'a jamais été mon cas. C'est-à-dire que finalement, j'ai eu en effet à gérer des services dans lesquels finalement un certain nombre de choses étaient demandées. Et puis, compte tenu de ces services, j'ai bien été obligé aussi d'essayer de comprendre finalement d'où pouvaient venir ces services, ce qu'ils faisaient et pourquoi ils étaient là. Mais je dirais, je n'ai pas. Ça s'est fait plus par, je dirais, par recherche de compréhension finalement du métier ou des différents métiers dans lesquels je me suis retrouvé. Donc d'abord, en effet, en collectivité territoriale, comme directeur de jardin, de parc et jardin, dès le départ, dès ma sortie de l'école. Et puis, je suis passé donc au Jardin des Plantes, c'est-à-dire au ministère de l'Enseignement supérieur, comme ingénieur de recherche. Et après, un différend, parce que je peux le dire, avec le nouveau directeur général de l'époque, dans les années 2000, j'ai donné ma démission de mes fonctions. J'ai fait du placard. Alors pour ça, si vous ne savez pas, c'est intéressant parce que tous les matins, j'allais à mon bureau et j'avais qu'une seule chose à faire, c'est d'attendre que la journée passe, puisque je n'avais plus de signature et que je pouvais discuter très librement avec l'ensemble de mes collaborateurs, puisque je n'étais plus leur patron. Et après 6 mois, je suis rentré à l'inspection générale de l'environnement comme inspecteur général. Où j'ai fait 19 ans d'inspection générale, dont 2 fois j'étais revoir mon ancien directeur général en tant qu'inspecteur pour lui poser un certain nombre de questions sur un certain nombre de choses. Alors, finalement, on m'a demandé de parler des jardins botaniques, et dont l'histoire a été quand même écrite et qu'il n'est pas trop difficile, je dirais, de retrouver toutes les grandes lignes des jardins botaniques. Mais j'ai souhaité finalement aborder peut-être une entité finalement qui est peut-être un peu plus mal connue, que sont les conservatoires nationaux ou les conservatoires botaniques nationaux, et pour montrer finalement de quelle manière ils se sont imposés dans le paysage, je dirais, juridique et scientifique français, au détriment finalement, ou tout au moins en France, des jardins botaniques. Un autre point qui est plus. Ça va être extrêmement décousu, hein, mon discours, comme ça, au moins vous le savez. Un autre point sur lequel je voulais insister, c'est quand même la vitesse à laquelle se sont modifiées les positions et la manière dont on regarde et dont on appréhende le monde végétal, d'une façon générale. Il s'avère c'est assez curieux, mais en mai 2010, on m'avait demandé d'intervenir devant un séminaire de l'École nationale supérieure du paysage. Et je m'étais aperçu, en arrivant en mai 2010, que ça faisait 40 ans que j'avais quitté cette école comme élève et que je revenais donc comme conférencier. Et ce qui m'avait, je dirais, surtout frappé, c'est que lorsque je suis sorti de cette école, dans le fond, pour les paysagistes, c'était la liberté totale. Alors, liberté de conception, liberté d'assemblage des végétaux, qu'ils soient indigènes, exogènes, de la manière de les traiter, de la manière de créer des paysages, et donc une création, je dirais, quasi totale. Alors qu'en 2010, finalement, ces mêmes paysagistes qui allaient sortir de l'école allaient tomber la chape, en quelque sorte, d'un certain nombre de règles, entre autres sur le problème de la sauvegarde des essences ou des espèces indigènes, sur le problème des habitats naturels, autant d'éléments, finalement, et même de vocabulaire, qui, en 1970, n'étaient même pas abordés. Et je dirais tout ça pour dire qu'en l'espace de 4 décennies, ce qui est quand même très, très peu de choses, on était passé d'un monde qui était, à mon avis, le monde du 19e siècle au monde du 21e siècle. C'est-à-dire que j'estime que le 20e siècle, sur le plan de la perception des végétaux, n'existe pas, tout au moins pour les acteurs du monde végétal. Je ne parle pas des scientifiques qui travaillaient, entre autres, sur les phénomènes de physiologie, d'écologie, de génétique, mais pour les acteurs, finalement, on est passé du 19e au 21e siècle en l'espace de quelques décennies. Alors, je vais revenir quand même un peu sur l'histoire des jardins botaniques, puisque c'était quand même la question principale qu'on m'avait posée. Les jardins botaniques, même chose, c'est une création à l'échelle de l'homme relativement récente, puisqu'on peut estimer qu'ils sont apparus au XVIe siècle et qu'ils se sont développés finalement au cours des siècles. Même si auparavant, il y a eu des jardins de collection. Et je pense qu'il faut bien différencier les jardins de collection ou les jardins d'agronomie ou les jardins d'acclimatation, les jardins de naturalisation. J'ai vu que ce matin, je me permets, naturalisation et acclimatation étaient employés parfois l'un pour l'autre, alors que l'acclimatation, c'est un végétal qui peut pousser, mais sur le plan uniquement végétatif, sous nos climats, mais qui ne peut pas se reproduire. Et donc l'homme est obligé d'intervenir, alors que la naturalisation, le végétal, je dirais, vit sa vie, je dirais, entière, y compris en s'installant dans des milieux, dans des habitats, et donc fait partie de l'écosystème ou d'écosystèmes même dits naturels ou semi-naturels. Donc il y a bien existé finalement des jardins auparavant, que ce soit essentiellement finalement du côté des jardins arabes ou maures, parce que finalement on s'aperçoit que ce soit en Sicile ou en Andalousie, il y avait dès la fin du premier millénaire bien des jardins qui ont acclimaté, voire naturalisé des plantes de Moyen-Orient et qui sont passées progressivement dans les jardins, entre autres dans les jardins des monastères ou dans les jardins des simples. C'est vrai que si on prend Belon, lorsqu'il a fait son voyage, Pierre Belon, lorsqu'il a fait son voyage pour François Ier, lorsqu'il a été au Moyen-Orient, et entre autres dans l'Empire ottoman, eh bien, il a ramené un certain nombre de graines, et entre autres, le premier cèdre du Liban, ce n'est pas Jussieu qui l'a introduit, je dirais, en France, mais c'est lui qui avait semé des graines qu'il avait ramenées du Liban, qu'il avait semées dans son jardin, qui était au Mans. Ces cèdres ont-ils germé? Se sont-ils développés? Sont-ils morts? On n'en sait rien, puisqu'on sait qu'ils sont arrivés, mais on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Les premiers jardins botaniques qui se sont créés, alors, je dis en Italie, ce qui n'a pas de sens, parce que finalement, l'Italie n'existant pas, je dirais, au XVIe siècle, mais dans cette péninsule, pour plusieurs raisons, dont l'une, c'était de se dire, on a découvert l'Amérique, donc on a découvert l'ensemble des terres émergées. Donc on peut, maintenant qu'on connaît l'ensemble des terres émergées, on devrait pouvoir réunir dans un même lieu tout ce qui avait été dispersé au moment du péché originel. Donc reconstituer, je dirais, en quelque sorte, la flore du paradis terrestre. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que Linné, qui est un botaniste du XVIIIe siècle, dans sa philosophie botanique qui va paraître, en gros, vers les années 1750, et qui sera traduit en France dans les années 1780, va indiquer que le jardin botanique ou paradis terrestre. C'est-à-dire que même, je dirais, au XVIIIe siècle, on en est encore à cette idée du jardin, en quelque sorte, idéal, où on va réunir toutes les plantes. Le premier jardin sera, je dirais, fait par la République de Venise. Et finalement, le seul qui reste à l'heure actuelle, c'est celui de Padoue. Qui est dans son, je dirais, non, sa forme et dans son écrin originel, donc tel qu'il se présente. Alors, je vous en reparlerai un petit peu après. Il s'avère que les premiers jardins botaniques qui vont être créés pratiquement jusqu'au XVIIIe siècle sont de petites surfaces, parce que c'est jamais qu'un jardin spécialisé, comme l'est le potager, comme l'est le jardin de plantes médicinales, comme est le jardin de fleurs de fleurs, ou comme peut l'être partiellement certains vergers. Donc on crée un jardin, je dirais, supplémentaire, dont l'objectif est de réunir toutes les plantes qui existent à la surface de la Terre dans un même lieu pour les cultiver, les connaître, les dénommer et éventuellement les multiplier. Donc le but est bien un but de connaissance, en sachant que cette connaissance, on doit la faire sur toutes les plantes, y compris les plantes dites mauvaises herbes, dont on ne se préoccupe pas, parce que dans l'esprit finalement surtout des botanistes et puis surtout des médecins, si ces plantes existent, c'est que Dieu leur a donné une fonction. Et si on ne s'en sert pas, si on ne les utilise pas, c'est qu'on n'a pas trouvé quelles étaient ou quelles étaient leurs fonctions. Donc il n'y a pas de raison de les négliger. Il faut absolument qu'on puisse les connaître et les dénommer. Donc voilà le premier point de ces jardins botaniques qui vont donc être créés en Europe. Et pour pouvoir étudier toute cette flore, eh bien, il faut faire venir les végétaux qui poussent sur les autres continents. Alors, sur les quatre autres continents, puisque l'Australie n'est pas encore découverte, donc on ne sait pas qu'il y a un continent, finalement, dans l'hémisphère austral. Donc, petit à petit, toutes les plantes vont arriver, et c'est l'une des raisons, finalement, pour lesquelles on va envoyer un certain nombre de missions pour aller récolter toutes ces plantes, y compris, et c'est là où ça devient important, on va essayer de récolter les plantes qui poussent à la porte de chez soi. Parce que finalement, on s'aperçoit qu'à la porte de chez soi, ces herbes folles qui poussent, je dirais, dans la ville, eh bien, on ne les connaît pas plus et on ne les dénomme pas plus qu'un certain nombre d'autres plantes qui, elles, ont un usage et une utilité. Alors, je ne vais pas vous citer tous les jardins les uns après les autres. Donc, les premiers jardins qui vont être créés donc sont, je dirais, en Italie, que ce soit donc Padoue, Pise, Bologne. Et il faut voir aussi que très rapidement, les Pays-Bas, donc Leyde, va être créé, et ça en 1577. Oui, je ne vous ai pas donné les dates. Padoue, c'est 1525, Pise, 43, Bologne, 68. Mais enfin bon, vous retrouverez ça, je le mettrai sur le document. Et Leyde, en 77. Parce que les Pays-Bas, au XVIe siècle, ont supplanté en grande partie la marine portugaise et ont commencé à prendre possession de l'Extrême-Orient et des richesses de l'Extrême-Orient. Donc progressivement, donc, les Pays-Bas développent leur flotte et ont pour objectif, un objectif extrêmement commercial et extrêmement simple, c'est de détrôner la toute-puissance de Venise et de Gênes quant à l'approvisionnement de tout ce qui vient d'Extrême-Orient par les routes, alors soit de la soie terrestre, puisque les Venise allaient chercher finalement au fond de la mer Noire finalement ce qui venait par les caravanes, ou c'était ramené par les Arabes jusqu'à Alexandrie, où Venise venait chercher ce qu'il y avait. Donc le but est quand même un but extrêmement commercial, mais ils en profitent pour créer un jardin botanique de façon à eux aussi remettre toutes ces plantes. Alors, bon, l'Allemagne, enfin tout au moins un certain nombre de duchés ou de principautés allemandes vont également très vite avoir des jardins botaniques. Et le premier jardin botanique qui sera créé en France, c'est à Montpellier, en 1797, par une ordonnance d'Henri IV, qu'il fera, je dirais, un peu contraint, sous la pression à la fois de la ville de Montpellier et de l'ensemble de ces bourgeois qui voient ou qui ont vu la perte finalement de l'influence de l'université de Montpellier, car les médecins ne passaient plus par Montpellier pour se former. Donc ils partaient des jardins botaniques ou des villes du nord de l'Europe. Autrefois, ils passaient par Montpellier, puis allaient en Italie, puis revenaient, je dirais, dans leur pays d'origine. Eh bien, ils ne passent plus par Montpellier. Et Montpellier va décliner en termes d'université, en termes de nombre d'étudiants, donc en termes de ressources, finalement, pour l'ensemble de la population. Et donc, Henri IV décidera de créer ce jardin botanique, y compris pour des raisons très politiques, parce que Montpellier est quand même plus protestante que catholique. Donc, il faut quand même donner quand même un petit peu de... je dirais, un certain nombre d'éléments, je dirais, à cette communauté protestante. Et puis, pour l'anecdote, Henri IV pensait qu'il ne mourrait pas de la syphilis s'il créait un jardin botanique. Et il a eu tout à fait raison, puisqu'il n'est pas mort de la syphilis, mais assassiné. Donc, il avait raison, il a eu raison de créer ce jardin botanique. Pour ce qui est, je dirais, de Paris, alors, il y a un deuxième jardin botanique qui sera créé, qui est maintenant en France, mais qui ne devait pas l'être à l'époque, c'est à Strasbourg, qui sera créé très tôt. On est déjà au XVIIe siècle, et qui sera créé en 1619. Et le jardin des plantes, ou le jardin royal des plantes médicinales, puisque ce sera son titre officiel, au moins au départ, sera créé qu'en 1635, par Louis XIII, et après une lutte quand même extrêmement acharnée entre un certain nombre de médecins du roi et la Sorbonne, puisque la Sorbonne s'opposait finalement à ce qu'il y ait un jardin botanique sur Paris, car dans le jardin botanique, on mettait en cause une partie de l'enseignement scolastique enseigné sur la Sorbonne et qu'on voulait faire de l'expérimentation, entre autres sur du vivant. Puisque lorsque le jardin botanique, le jardin des plantes plutôt, sera créé, il y aura en gros l'équivalent de trois chaires, une de botanique pour étudier les plantes, mais il y aura aussi une chaire d'anatomie comparée, en fait, on peut, sous une dénomination très moderne, c'est-à-dire qu'on va essayer de comprendre chez les animaux qu'est-ce qui est comparable ou pas comparable, et puis on aura aussi une chaire, je dirais, de chimie, dont le but est d'essayer de comprendre quels sont les principes actifs de la vie, à la fois des animaux et des plantes. Ce qui est totalement contraire, finalement, à l'enseignement de l'Église. Et c'est la raison pour laquelle le jardin des plantes a pu être créé à Paris, mais en dehors des murs du XVIIe siècle de Paris, puisque la Sorbonne n'avait pas de pouvoir en dehors des murs. Donc le jardin a été créé en dehors des murs. Je passe sur l'évolution de tous ces jardins. En disant quand même que le jardin des plantes de Paris aura une superficie en gros de 5 à 7 fois la superficie qui peut exister dans les autres jardins qui existent en Europe, ce qui permettra à Guy de la Brosse, qui était le médecin ordinaire du roi qui avait permis la création de ce jardin et qui serait ouvert en 1640, de dire au moins on n'est pas le premier jardin botanique, mais on est le plus grand des jardins botaniques. Et alors, il est intéressant de voir qu'il avait une perception plus, je dirais, écologique que botanique, ou autant botanique qu'écologique, à cette époque. Car il dit, on a besoin d'un grand jardin et d'une grande surface, parce qu'il ne faut pas qu'on ait forcément un exemplaire d'une plante, d'une espèce. Il serait bon qu'on en ait plusieurs exemplaires, car dans le fond, dans une population donnée, on a des différences entre les plantes. Et donc, il serait bon qu'on puisse avoir ces différentes populations ou ces différents exemplaires, finalement, de ces populations. Et il dit également que certaines plantes qui peuvent être extrêmement rares dans certaines régions peuvent être extrêmement abondantes dans d'autres. Donc, il faut aussi qu'on les traite de façon différenciée. Donc, on est bien dans une espèce de vision qui va au-delà, finalement, de la connaissance pure de l'individu, tel que ça va se mettre en place très rapidement après. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que donc, le jardin de Padoue est le seul qui a été conçu, de cette manière-là, qui est une représentation de l'univers. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, on a quatre carrés qui correspondent aux quatre continents, mais aussi aux quatre, à la croix finalement qui pouvait exister dans la religion entre autres chrétienne, donc qui représente la terre et finalement qui est entourée par un mur qui est de façon circulaire avec quatre entrées correspondant au nord, sud, est et l'ouest qui correspond à l'univers. Et voilà ce que ça donnait finalement. Le jardin, mais en fait, c'est une représentation un peu plus du 18e, mais le jardin existe toujours dans sa forme initiale. Et ce qui est intéressant, même si c'est pas... C'est le jardin de Montpellier, le premier jardin de Montpellier, parce que vous savez qu'il a été détruit assez rapidement. c'est qu'on a une présentation alors totalement différente, puisque, je ne sais pas si vous voyez, ici on a un plateau et puis on a des gradins qui descendent jusqu'à une zone qui est remplie d'eau. C'est-à-dire que finalement, on va présenter les plantes non pas en fonction de leur zone d'origine, mais en fonction des milieux dans lesquels elles poussent. C'est-à-dire qu'on met les plantes des zones sèches en partie haute, et plus on descend, plus on va vers les plantes qui vivent dans des zones humides, puisque vous allez sur une butte, ben en haut, il suffit de voir les talus autoroutiers, de quelle manière ça pousse, ça se développe, il y a toujours des herbes très hautes en bas, parce que l'humidité arrive en bas, et c'est toujours sec. Donc on va avoir finalement une présentation à caractère un peu, là aussi, écologique, mais qui va vite disparaître, puisque ce n'est pas des choses qu'on va retenir finalement dans le futur. L'apogée des jardins alors ça, il s'agit du jardin des plantes au XVIIe, avant finalement que Buffon intervienne et entraîne le jardin jusqu'à la Seine. Si vous voulez, pour faire simple, la grande galerie est ici. Enfin, la bibliothèque qui est sur la rue... Geoffroy Saint-Hilaire. Bon, est ici. Et la grande galerie a été donc faite devant. Ce qui est intéressant sur le plan, alors, pour montrer aussi que les jardins botaniques vont se mettre en place jusqu'à la fin du XVIIIe, indépendamment des caractéristiques esthétiques de l'art des jardins. Puisque on rentre dans une cour, et ensuite on a le jardin. Et on s'aperçoit qu'il n'y a absolument pas d'axe de composition entre le bâti, la cour et le jardin, alors qu'à la même époque, les jardins classiques tels qu'ils se font sont d'abord une cour, un bâtiment qui est perpendiculaire à l'axe de création du jardin, et ensuite le développement du jardin. Donc on voit bien que c'est un jardin qui se crée pour un caractère utilitaire dès le début. Bon, ça, les choses ont bien changé,
ayant eu à étudier de très près, finalement, l'évolution du jardin des plantes, on s'aperçoit que depuis le début, depuis en gros les années 1680, rien n'a été modifié, y compris la structure des carrés qu'on lit mal à l'heure actuelle, à un mètre près, ce sont ceux de la fin du XVIIe. Et donc c'est au XVIIIe siècle, finalement, que les jardins botaniques vont, en quelque sorte, avoir leur apogée en termes de lieu de science. Parce que je pense qu'il faut bien voir que la science se fait sur le terrain. C'est-à-dire qu'on apprend la botanique sur le terrain, avec quand même dans des conditions qui ne sont absolument pas évidentes, parce qu'une chose qui semble évidente à l'heure actuelle, il n'y a pas d'étiquette dans un jardin, dans les jardins. C'est-à-dire que finalement, à la bibliothèque, il y a un plan dans lequel toutes les parcelles ont une lettre A, B, C, D, et dans cette parcelle, on a découpé la parcelle en petits carrés qui font en gros 1 mètre sur 1 mètre. Dans lequel on va mettre la plante. Et donc, l'étudiant qui doit aller dans le jardin doit apprendre le plan par cœur avec tous les noms des plantes et aller ensuite dans le jardin pour voir quelle tête a cette plante. Bon, en sachant qu'il ne faut pas non plus qu'il prenne le plan à l'envers ou qu'il se trompe, parce que finalement, il n'y a pas d'élément finalement lui permettant d'aller dans un bon sens ou dans un mauvais sens. Donc, c'est dans le jardin que se fait l'ensemble finalement. Des recherches, que ce soit de taxonomie, que ce soit de nomenclature, je dirais tout se fait à partir du jardin. Il y a quand même un élément qui va exister pratiquement dès la fin du XVIe siècle, c'est que un élément qui est lié à la disponibilité du papier. Aussi curieux que ça puisse paraître, le papier va avoir une très grande importance parce qu'ayant à disposition du papier, on peut faire des herbiers. C'est-à-dire qu'on peut récolter des plantes, les faire sécher et les mettre justement sur ces feuilles de papier, si bien que l'on peut faire des études complémentaires sur un certain nombre de plantes, soit qui ont des cycles extrêmement courts, on prend certaines annuelles qui ont 2-3 mois d'existence et puis après elles rentrent en dormance ou sous forme de graines, soit parce qu'elles ont du mal à pousser dans le jardin. Donc on va pouvoir quand même les étudier d'une façon, je dirais, permanente. Autre élément et qui perdure encore, même si ça se perd un petit peu, mais qui perdure encore, c'est le système de l'échange. Alors, on a parlé, vous avez parlé ce matin des botanistes qui faisaient, qui allaient chercher des plantes dans la nature et puis qui les mettaient en herbier, quelquefois avec en détruisant finalement éventuellement quelquefois les stations. Mais là, les botanistes, je dirais scientifiques, le faisaient et s'échangeaient finalement les plantes. Et il y avait un système d'échange sur l'ensemble de l'Europe extrêmement actif et qui a permis finalement progressivement que la science botanique émerge. Et c'est au XVIIIe siècle qu'elle est sortie totalement de la contrainte et de la chape que lui avait imposée la médecine. C'est-à-dire que finalement, on étudie les plantes pour ce qu'elles sont et non pas pour ce qu'elles ont comme usage ou ce qu'elles devraient avoir comme usage. Donc on a changé totalement de presque de paradigme. Un autre point aussi, parce que au 19e, il va y avoir quand même cette espèce de révolution, je dirais, esthétique et même scientifique, c'est que toutes les plantes, on les met dans les mêmes carrés qui fassent 1 mètre sur 1 mètre. Donc ce matin, on a montré le pin donc, qui avait été planté par Jussieu. Le pin planté par Jussieu a été planté dans un carré qui faisait 1 mètre sur 1 mètre, en espérant qu'il ne prenne pas trop de place à terme. Et un certain nombre de végétaux qui étaient des arbres sont devenus très grands et ont été supprimés dans beaucoup d'écoles de botanique, de façon à ce qu'on ait essentiellement des plantes herbacées qu'on arrive quand même à maîtriser et autres. Donc on n'a pas de notion et on ne cherche pas non plus à obtenir des végétaux qui vont pousser énormément. Pendant très longtemps, finalement, le seul instrument des jardiniers était le greffoir ou la serpette, c'est-à-dire tout ce qui permettait de réduire les végétaux de façon à ce qu'ils ne prennent pas trop de place. Je pourrais citer l'exemple du kiwi, enfin kiwi qui est un actinidia, qui avait été planté à la fin du 19e siècle au jardin des plantes, dans une serre, parce qu'on pensait que c'était une plante de serre chaude, et tous les ans, les jardiniers le taillaient, jusqu'au jour où la serre a été abandonnée, l'actinidia est resté dans la serre, il s'est développé, il a percé le vitrage, et on s'est aperçu finalement qu'il fleurissait et qu'il pouvait donner des fruits. Donc tout ça pour dire que pendant des années, des décennies, des siècles, on a coupé. Donc jusqu'au 18e, je dirais, la science est vraiment dans le jardin. Et l'enseignement de la botanique se fait également dans le jardin. À partir de la fin du 18e, pour des tas de raisons à la fois scientifiques, mais également très esthétiques, on s'aperçoit qu'un certain nombre de végétaux, entre autres parmi les ligneux, donc les arbres et les arbrisseaux, on aimerait bien les connaître dans leur possibilité de développement sur notre territoire. C'est-à-dire que les paysagistes, avec l'introduction de l'art des jardins de paysagers, qui va commencer à la fin du XVIIIe siècle, on va s'apercevoir que la flore nord-américaine et la flore d'Extrême-Orient, entre autres chinoise, parce que le Japon, on ne le connaît pas, parce qu'on ne peut pas y mettre les pieds encore. Je rappelle que le Japon est resté fermé jusque dans les années 1860. On va, à ce moment-là, essayer. On sait, par les descriptions qui sont faites par les botanistes qui se sont promenés dans ces régions, y compris par souvent des officiers de marine qui ont aussi parcouru le monde, qu'il y a des végétaux qui sont extrêmement intéressants. Alors, à la fois pour les forestiers, et c'est vrai que ce matin, vous avez abordé un peu la chose, mais le corps des eaux et forêts est un corps qui remonte à Colbert, il faut quand même s'en souvenir, et qu'ils ont eu leur propre politique, y compris d'introduction des végétaux, d'essai des végétaux, à commencer par l'arboretum des Barres, qui a été un arboretum privé, mais dont le but puisque c'était la famille Villemorin, mais dont le but était de cultiver des ligneux pour savoir si on pouvait ensuite les planter dans les forêts et modifier finalement la flore forestière française, voire européenne, pour avoir des rendements des temps de révolution des végétaux plus rapides. Donc on voit bien qu'au XVIIIe, il va se passer ça. Et donc on va avoir une nécessité d'avoir des jardins botaniques qui vont devoir changer de dimension pour que ces végétaux puissent se répandre. Et donc pour ce qui est du jardin des plantes, le jardin des plantes, il va rester ce qu'il est. Sauf que Gabriel Thouin, alors on a parlé ce matin d'André Thouin, donc c'est le petit frère, enfin un des frères d'André Thouin. Donc ils sont tous nés au Jardin des Plantes, puisque leur père était déjà jardinier au Jardin des Plantes. Ils ont tous vécu, je dirais, dans... Et lui était plus paysagiste. Et donc, pour répondre à la nouvelle demande qui va se faire au début du XIXe siècle, qui est d'abord que l'on puisse avoir des végétaux qui puissent se développer, que l'on puisse examiner et suivre les développements de l'agronomie. Parce qu'il faut quand même penser que c'est une période dans laquelle aussi on essaie de lancer l'agronomie et d'introduire finalement de nouveaux végétaux ou de nouvelles espèces, mais aussi de nouvelles variétés. Eh bien, il serait bon qu'à Paris, il y ait un territoire qui soit extrêmement grand dans lequel on puisse installer tout ça. Et il s'avère que... Alors, ça, c'est le boulevard de l'hôpital. Ça, c'est le boulevard... Alors, je ne sais plus comment il s'appelle. Le boulevard qui est au nord. Là, il y a un feu. Enfin, bon, c'est un boulevard. Et là, c'est le bord de Seine. Et toute cette zone, c'est l'université de Jussieu. Non, c'est pas la rue Poliveau. C'est un des boulevards... peu importe. Et peut-être, oui. Et le jardin des plantes, tel qu'il existe, c'est ça. En gros, ce n'est que ça. Et donc, vous voyez, alors, la botanique se trouve dans une ellipse. Alors, en plus, bon, je passe, mais il y a des considérations d'ordre philosophique sur la forme... idéal du parcours que font les astres, et donc des ellipses, bon, le cercle également, et puis vous avez tout ça, ce sont des cultures, entre autres des cultures de céréales pour faire des essais, donc on est bien dans quelque chose de bien plus vaste que le jardin botanique. Et il s'avère que un certain nombre de jardins botaniques, mais il va y en avoir un ou deux par pays en Europe, vont prendre une extension énorme, justement parce qu'ils vont avoir un autre rôle et jouer un autre rôle. Ça a été dit un tout petit peu ce matin, au moment de la convention en 93, vous savez que le jardin des royales va devenir jardin des plantes, mais il va y avoir un autre élément qui est sans doute important, enfin pour moi qui est important, et qui peut permettre d'expliquer finalement certaines diffusions de plantes dont vous avez parlé ce matin. Il s'agit enfin de la loi du 25 février 1795 qui oblige le jardin botanique, bien le jardin des plantes, à diffuser toutes les des graines ou des jeunes plants de toutes les espèces nouvelles ou étrangères qui sont dans le jardin. Et au XIXe siècle, finalement, la partie centrale du jardin, telle que vous la connaissez, ce n'est qu'une immense pépinière avec plusieurs dizaines de milliers de jeunes plants qui sont diffusés tous les ans. Alors, en France, c'est, par exemple, toutes les écoles normales de France recevaient toute une série de lots de nouveaux végétaux tous les ans que les élèves des écoles normales devaient apprendre pour pouvoir ensuite les diffuser lorsqu'ils seraient instituteurs, je dirais, un peu partout. Et surtout, lorsqu'on lit les cahiers, je dirais, d'expédition, on s'aperçoit que toute l'aristocratie française, nous sommes après la Révolution, hein, toute l'aristocratie française va demander des végétaux exotiques entre des arbres pour planter dans leurs propriétés qu'ils ont, je dirais, en province. Tous les officiers supérieurs feront de même pour leurs propriétés de province, tous les députés, enfin, etc. Enfin, et surtout, pratiquement les trois quarts des pépiniéristes français vont demander des végétaux qui ne sont pas encore diffusés, qui leur permettront de les planter dans leur pépinière et d'avoir ainsi ce qu'on appelle des carrés de pied-mère, à partir duquel ils feront des boutures et ils les mettront ensuite sur le marché. Le deuxième point qui me semble également important, parce que c'est quelque chose qui existe encore, c'est la création des index séminum. Alors, index séminum, c'est-à-dire index de graines. C'est-à-dire que depuis, le milieu du XVIIIe siècle, un certain nombre de jardins botaniques considèrent, premièrement, que ce qui est de la botanique n'appartient pas... n'appartiennent pas, finalement, ça appartient pas à un pays, à une nation. Ça appartient à la communauté, universelle. Et c'est la raison pour laquelle ils vont s'échanger des graines de plantes qu'ils ont récoltées ou dans la nature ou dans le jardin, ou qu'ils ont obtenues, finalement, venant de l'extérieur. Et le muséum enverra des milliers, des dizaines de milliers de graines à travers donc la France et le monde. Et certains jardins botaniques se sont constitués en partie à partir de graines envoyées par le muséum, chose qui existe toujours. Alors, tout ça pour montrer que les jardins botaniques ont eu une heure de gloire au XVIIIe. Au XIXe, finalement, ils deviennent essentiellement des pépinières ou des écoles pour apprendre la botanique. Et la botanique, en tant que science, sort du jardin, il rentre en laboratoire et on commence à étudier dans les laboratoires. Et le jardin, je dirais, non pas n'a plus d'usage, mais un usage qui devient très limité. Alors, tout ça pour dire quelle définition peut-on donner au mot « jardin botanique ». Alors, le jardin botanique, finalement, il y a une définition qui a été donnée en 1937 par celui qui était directeur du jardin botanique de New York. Et pour lui, il y a cinq grandes missions. Une mission scientifique, éducative, récréative, civique et économique. C'est-à-dire, finalement, on aborde l'ensemble, finalement, à la fois des connaissances, je dirais, pures, jusqu'à au côté extrêmement pratique, finalement, de ce qui pouvait exister. Le BGCI, qui regroupe l'ensemble des jardins botaniques du monde, lui donne une autre définition qui est plus récente. Et ce en quoi c'est important, c'est qu'il ne fait pas mention d'un lieu. C'est-à-dire que finalement, le jardin botanique n'est pas un lieu sur lequel s'exerce la botanique. C'est une institution. Et donc, le fait de parler d'institution, c'est qu'on va bien au-delà du jardin. C'est-à-dire que finalement, ça inclut les herbiers, ça inclut la bibliothèque, ça inclut les graineries, ça inclut les banques de données, ça inclut les photothèques, etc. Donc ça inclut tout ce qu'il y a autour et qu'on ne voit pas finalement quand on est dans un jardin botanique, parce qu'on voit un jardin. Et pour eux, c'est une institution qui rassemble des collections documentées de végétaux vivants, à des fins de recherche scientifique, de conservation, d'exposition et d'enseignement. Bon. Là aussi, ce qui peut dire qu'on peut y mettre un peu ce que l'on veut dans un jardin botanique. Et chaque pays, en fonction de sa culture, en fonction de son histoire, peut faire entrer donc les jardins botaniques dans cette définition. Juste deux, trois chiffres quand même. À l'heure actuelle, il est estimé qu'il y a 1775 jardins botaniques répartis dans 148 pays. Alors, je vous rappelle que le nombre de pays, au moins enregistré à l'ONU, approche les 200. Donc, vous voyez, il y en a une cinquantaine dans lesquels il n'y aurait pas de jardins botaniques. Avec plus de 500 en Europe. Bon, c'est la base. Donc, 350 en Amérique du Nord et 200 en Asie du Sud-Est. qui sont dans les derniers qui ont été créés, les plus récents finalement, pour des tas de raisons. Alors, ce qui, je dirais, montre aussi la limite des jardins botaniques, finalement, si on prend un herbier, toutes les espèces qui sont connues sont dans un herbier. Parce que si elles ne sont pas dans un herbier, elles ne sont pas connues. Bon, enfin, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas d'existence légale. Donc, elles sont dans un herbier. Donc, les 320 000 ou 330 000, enfin, on ne va pas se battre sur les chiffres, espèces qui peuvent exister, au moins pour les plantes supérieures, sont dans un herbier. Mais il a été calculé que, finalement, dans l'ensemble des jardins botaniques du monde, seules 80 000 espèces étaient cultivées. C'est-à-dire, vous voyez la différence qui peut exister entre l'exhaustivité d'un herbier par rapport à l'exhaustivité de l'ensemble des 1700 et quelques jardins botaniques, plein de plantes. Alors, soit parce qu'on ne sait pas les cultiver, soit parce qu'on n'est pas dans le bon climat, soit parce qu'elles se développent trop, soit, etc., etc. Si on prend le Welwitschia, par exemple, de Namibie, bon, c'est vrai, il y a un jardin botanique qui sait le cultiver correctement, parce que c'est une plante complètement... Enfin, extrêmement curieuse, finalement. D'abord, c'est un conifère qui a que deux feuilles. Enfin, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, voilà. Alors, pour ce qui est des jardins botaniques en France, finalement, il n'y a pas de définition, il n'y a pas plus de définition, je dirais, qu'il y en a pour, je dirais, l'ensemble du monde. Mais en plus, il n'y a pas, je dirais, de reconnaissance officielle des jardins botaniques. Ceux qui reconnaissent, finalement, c'est une association. C'est l'Association des jardins botaniques de France et des pays francophones, c'est-à-dire qu'il y a la Suisse et un petit bout de Belgique. Et en 2021, j'ai regardé sur leur site, là, il y aurait 30 jardins botaniques qui sont agréés comme jardins botaniques et 11 qui seraient parrainés. Mais dans le fond, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils ont? Quels sont leurs niveaux, finalement, sur le plan à la fois scientifique comme sur le plan, je dirais, éducatif? C'est assez difficile de le savoir. Alors, que s'est-il passé, et je vais faire ça très rapidement. Je n'ai pas de montre, j'ai rien, donc...
Encore 5 minutes maximum.
Oh là. Donc, je n'aurai pas le temps de tout dire, ni de tout faire. Non, je voudrais quand même rappeler quelques petits éléments. Entre autres, en 1970, il y a un président de la République, c'est Georges Pompidou à l'époque, qui va quand même dire dans un discours officiel « La nature nous apparaît de moins en moins comme la puissance redoutable que l'homme du début de ce siècle s'acharne encore à maîtriser, mais comme un cadre précieux et fragile qu'il importe de protéger pour que la terre demeure habitable à l'homme. » 1970. À la suite de ce discours, finalement, sera créé le premier jardin botanique, le ministère de l'Environnement, qui aura sa première loi, loi de protection de la nature, en 1976. Et je voudrais quand même rappeler que le mot biodiversité, l'expression plutôt, est apparu en 1980, c'est-à-dire finalement ça fait 40 ans, à l'occasion d'un congrès, et que le sommet de Rio sur les conventions sur la biodiversité, c'est 1992. Donc, on est là aussi dans quelque chose d'extrêmement récent. Alors, je voulais... je passe... J'avais d'autres choses à vous dire là-dessus, mais enfin, bon. Je voudrais quand même aborder le problème du rôle des jardins botaniques qui, comme je vous disais, on ne sait pas trop ce qu'ils faisaient. Et il s'avère que dès 1900... Si je retrouve ma feuille, voilà. Que dès... Si je mettais dans l'ordre, j'y arriverai. Que dès 1975, pour faire simple, un certain nombre de botanistes, naturalistes, je dirais gens un peu farfelus, dont l'un posait les bombes du FLB devant les centres des impôts, enfin voilà, se sont dit finalement, non, mais je crois que c'est important parce qu'il s'est dit, il défendait finalement une cause, qui était la cause de la langue bretonne et de la culture bretonne. Et dans le même esprit, finalement, il dit, il faut que l'on sauvegarde la flore indigène de nos régions. Donc il y avait un côté très, j'allais dire, nationaliste ou régionaliste plutôt à l'époque. Et c'est ainsi que finalement, que ce soit donc en Bretagne, que ce soit sur la côte, entre autres du côté de Hyères, donc sur la, dans le Var, ou dans les Alpes et du côté de Gap, vous avez trois personnages, pour des raisons totalement différentes, qui vont en quelque sorte se réunir et se dire il faut que l'on crée quelque chose pour sauvegarder la flore indigène locale qui est en train de disparaître. Et ils s'aperçoivent qu'il n'y a pas de répondant de la part des jardins botaniques, quels qu'ils soient, du muséum, à commencer par le muséum, mais y compris des jardins botaniques, je dirais, régionaux ou départementaux. La plupart des jardins botaniques sont sous la coupe des villes. Donc, il n'y a pas de répondant. Et donc, ils vont commencer à créer une structure, une qui va être créée à Brest, c'est-à-dire au milieu de nulle part, une qui va être créée à Hyères, qui va être rattachée finalement au parc national de Porquerolles, et puis une à Gap, même chose, je dirais presque un ovni dans la montagne, et ils vont commencer à créer les conservatoires botaniques. Et ces conservatoires botaniques, ils vont, essayer de les faire essaimer, et entre autres, il y en aura un certain nombre, dont un à Bailleul, un à Nancy. Et ce qui est intéressant, c'est que celui de Nancy va être créé à l'intérieur même du jardin botanique de Nancy. Et l'on voit que finalement, la politique ou la méthode de pensée entre le jardin botanique et le conservatoire doivent être relativement incompatibles, puisque c'est le seul jardin qui perdra son agrément en tant que conservatoire. C'est-à-dire que le seul jardin botanique qui avait reçu un agrément comme conservatoire botanique le perdra au cours des années parce qu'il ne répondait pas aux critères qui leur étaient demandés. La première reconnaissance officielle des conservatoires va être donc en 88, où on va reconnaître les conservatoires comme lieu de conservation des plantes ex situ. C'est-à-dire que finalement, on va sortir les plantes de leur milieu naturel pour les mettre dans le jardin. Et il sera défini, trois missions au conservatoire: la connaissance, la conservation, l'information et l'éducation. C'est-à-dire que finalement, connaissance, conservation, essentiellement ex situ, et puis information et éducation, étant réunis dans les deux. Et il y aura une quatrième fonction qui leur sera attribuée, mais en 2004, qui est l'expertise. Les premiers colloques, finalement, sur la conservation en France de la flore et des habitats, finalement, ont été montés par le conservatoire de Brest. Il y a eu deux grandes réunions en 87 et en 97 qui vont, être les bases, finalement, de la politique de l'État français sur le plan du conservatoire. Alors, juste très rapidement. Voilà un nouveau jardin botanique qui est le jardin national du Pays de Galles. Vous savez que c'est le jardin royal, jardin botanique royal de Kew. Celui d'Édimbourg, c'est le jardin royal d'Édimbourg. Et les Gallois, qui sont républicains, n'ont pas voulu que leur jardin s'appelle royal, donc c'est jardin national du Pays de Galles. Et donc on voit que c'est quand même sur une surface extrêmement importante, mais qu'on est aussi dans un dessin extrêmement paysager, avec une serre créée par un grand... Alors, juste pour vous dire, parce qu'on en parlait, des plantes exotiques, il faut savoir que jusque... aux années 1830, les plantes exotiques sont toutes cultivées en pot. Pour quelle raison ?
parce que le chauffage des serres se fait avec la tannée, je sais pas, l'une d'entre vous en a parlé ce matin, qui est donc le temps qu'on a récupéré, et il y a l'écorce, en gros, de chêne ou de châtaignier, qui ont servi à tanner les peaux qu'on récupérait, on le faisait égoutter et on le mettait dans des grandes fosses. Et à ce moment-là, on avait une chaleur, ça se mettait à fermenter, on avait de la chaleur, une chaleur dite douce, qui permettait de conserver les plantes ici. Et on considère qu'il y a 3000 places dans cette serre qui fait, bon, en gros, 2 mètres de profondeur, 2 mètres de hauteur. Donc on a quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que l'on connaît à l'heure actuelle dans les types de serres. Bon, ça, c'est les serres de Haute-Fleurie, donc les serres courbes, créées en 1830, et les deux pavillons qui existent toujours, hein, qui sont quand même, je le dis, les serres les plus hautes et les serres les plus vieilles du monde encore en activité. Ce n'est pas le palmarium de Thieu qui a été créé 4 à 5 ans plus tard que ces serres. Donc, créé par Rode Fleury, qui était architecte, architecte du muséum. La dessert, finalement, c'est celle de Glasnevin en Irlande, où on voit quand même le système d'architecture, finalement, du 19e siècle et la légèreté avec laquelle on savait faire des serres et de très belles serres dès le début du 19e siècle. Bon, ça, c'est des serres modernes dans lesquelles on voit bien qu'on peut faire cultiver, qu'on peut cultiver des plantes qui montent à 25-30 mètres de hauteur. C'est celle de Kyoto. Alors, les serres, c'est donc des herbiers, ça je vous l'ai dit. C'est des graineteries, donc des choses. Alors, c'est pas du tout quelqu'un qui vient voler des plantes. Hein. Il essaie de les protéger pour éviter justement qu'il y ait quoi que ce soit qui vienne sur les. Enfin, de bactéries ou virus ou champignons. Bon, ça, c'est les annexes séminum. Et je voulais vous parler, on va essayer d'agrandir ça, donc des conservatoires qui vont donc être créés progressivement. Et pour vous montrer que finalement, les conservatoires ont pris la main sur l'ensemble de la connaissance à la fois de la flore, mais également des habitats en France. Alors, pour rassurer les gens du muséum, le muséum n'est pas exclu de l'affaire parce que la loi de 2002 relative à la démocratie de proximité indique qu'il sera fait un inventaire national sur l'ensemble des terres émergées, y compris l'estran. Pour ceux qui ne sont pas marins, l'estran, c'est la partie qui est découverte dans les mers, enfin, ou les océans à marée. Donc, ça c'est considéré comme terrestre, mais tout ce qui est flore marine n'est pas donc compris là-dedans. Donc, est chargé de l'inventaire du patrimoine naturel, est institué pour l'ensemble du territoire national terrestre, fluvial, et il est indiqué la cohérence et la synthèse des productions des divers intervenants. Ces inventaires seront conduits sous la responsabilité scientifique du Muséum national d'histoire naturelle. C'est-à-dire que finalement, le muséum n'est pas chargé de faire ces inventaires, mais il est chargé de s'assurer de leur cohérence et de leur synthèse. Et donc, dans les différentes lois, dont les lois de Grenelle 1 et 2, là, qui sont dans les années 2000 ou 2010, eh bien, le mot qui va apparaître, c'est conservatoires botaniques nationaux. Le mot jardin botanique ne figure pas, donc il ne figure pas et n'existe pas. Et ça va, je dirais, d'autant plus loin que ce décret 14 juin 21, c'est-à-dire finalement tout à fait récent, montre que c'est un décret relatif aux conservatoires botaniques nationaux précisant leurs missions d'intérêt général qui sont confiées par l'État aux conservatoires botaniques nationaux, c'est-à-dire que finalement, ils ont bien une mission d'État. D'État. Et donc, ils ont, et si on reprend finalement ce que faisaient ou ce qu'auraient pu faire les jardins botaniques, développement de la connaissance sur la flore, la fonge, les champignons, les végétations et les habitats,
Et ça, je trouve que c'est extrêmement important parce que la France a nié qu'il puisse exister des habitats pendant très longtemps dans le code de l'environnement. Et finalement, c'est sous la pression de Natura 2000, qui est une directive sur les habitats, que la France a introduit le mot « habitat » dans le code de l'environnement. C'est-à-dire, finalement, il faut attendre les années 90-95. Et ce n'est pas pour ça que c'est passé dans les habitudes. Donc il y a les habitats aux échelles, et c'est là aussi c'est important, territoriales, c'est-à-dire finalement du petit territoire, c'est-à-dire la commune, à la limite, nationale et biogéographie. Et là aussi, ça se réfère finalement à l'ensemble des secteurs biogéographiques que l'Europe a mis en place, en sachant que pour la France, on a une biogéographie atlantique, méditerranéenne, alpine, c'est tout, et continentale. Et continentale. On en a quatre, et je crois que c'est l'un des rares pays qui ait autant de zones biogéographiques sur son territoire, en sachant que dans ces directives ne sont pas compris les départements d'outre-mer et encore moins les territoires ou pays d'outre-mer, puisque c'est leur titre actuel. Donc, développement de la connaissance, gestion, diffusion, valorisation des données sur la flore, la fonte, les végétations et les habitats, c'est-à-dire finalement, ils ont l'ensemble de leurs des éléments. Contribution à la gestion conservatoire de la flore. Je passe après sur les mots. Des ressources phytogénétiques sauvages. Ça aussi, c'est quelque chose d'important parce que les jardins botaniques, dans leur esprit, finalement, n'ont fait jamais que de la collection. Alors, je m'explique entre collection et conservation. Pour moi, la collection, c'est réunir le plus grand nombre d'espèces possibles dans un même lieu avec un petit nombre d'individus pour chaque espèce. Par exemple, pour les cerfs de chevreloup, c'était extrêmement simple. La norme, c'était 3 individus par espèce. En dessous de 3, on avait peur de perdre, donc il fallait essayer de trouver la troisième. Au-dessus de 5, on faisait des échanges, on ne les gardait pas. Donc c'est ça la collection. Or, la conservation dans le sens, je dirais, phytogénétique, c'est conserver le patrimoine génétique d'une espèce alors, ou rare ou en voie de disparition, etc. C'est-à-dire que finalement, l'objectif des conservatoires, c'est de récolter le plus grand nombre de graines possibles sur des habitats, sur des populations les plus dispersées possibles, de les semer et éventuellement de les cultiver pour les réintroduire dans le milieu. Donc, dans ce cas, on a peu d'espèces, mais un très grand nombre d'individus. C'est-à-dire qu'on peut avoir 50 espèces, et dans chaque espèce, on peut avoir 1 000, 5 000, 10 000 individus, justement, pour conserver ces ressources phytogénétiques qui sont extrêmement importantes et qui sont d'autant plus importantes dans le cadre du changement climatique à l'heure actuelle, car on sait que c'est toujours dans les extrêmes que l'on a, justement, les moutons à 5 pattes qui pourront s'adapter finalement à un certain nombre de modifications du milieu. Bon, appui à l'élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques et de la réglementation aux échelles territoriales, mais aux mêmes échelles, c'est-à-dire que finalement, ce sont les conservatoires qui sont les interlocuteurs, et non pas les jardins botaniques, qui sont les interlocuteurs des décideurs politiques aux différents niveaux. Et ensuite, communication, sensibilisation et mobilisation des acteurs. Bon, il s'avère que tous les conservatoires ont souvent des propriétés relativement importantes, sont souvent dans des beaux locaux, donc répartis un peu sur la France. Donc, ils ont cette mission, qui est une mission, finalement, qu'ils peuvent partager avec les jardins botaniques, mais dont les jardins botaniques n'ont pas le côté officiel, finalement, de cette mission. Alors, juste pour voir les jardins botaniques, les conservatoires, je vais y arriver. Les conservatoires, l'agrément est accordé pour 10 ans à l'heure actuelle. Autrefois, c'était 5 ans. Alors, ils ont un territoire. Le conservatoire est agréé pour un territoire, une partie de territoire français. Si on prend, par exemple, le conservatoire de Brest, il a la Bretagne administrative, Pays de la Loire, sauf la Sarthe, parce que la Sarthe... Comment ? Ah, c'était rattaché, ça a changé. Bon. Et puis, ils avaient un bout de Normandie, mais là aussi, ça va être en cours de discussion. Bon. Enfin, bon, donc ils ont un bout de territoire sur lequel ils ont tous les pouvoirs que je viens de vous donner. Ben voilà. Et puis, juste pour... ensuite, j'en avais un autre. Non, il faut que je ferme. J'ai la liste des CBN, enfin des conservatoires botaniques. Bon, donc ici, vous avez les premiers qui ont été agréés. Donc vous voyez, c'est quand même une création. Alors même si dès 1975, il y avait un pôle finalement qui avait commencé à exister. Donc c'est à partir de 1990 qu'on a eu cet agrément avec tout ce que ça comporte sur le plan juridique et de reconnaissance. Donc Brest, Porquerolles, Nancy, donc il va perdre en 2002, c'est-à-dire 12 ans après, qu'il va perdre son agrément. Donc voilà ceux qui ont existé. Et voilà la liste des jardins, des conservatoires qui sont actuellement agréés. Donc, enfin, je passe sur les détails des bagarres avec celui de Corse. Parce qu'on pensait, si vous voulez, j'ai eu à faire la mission finalement sur l'ensemble des conservatoires. On ne souhaitait pas. Enfin, quand je dis « on », c'est-à-dire on était deux à faire la mission, nous ne souhaitions pas que les conservatoires soient sous l'emprise directe d'une seule région, de façon à ce qu'ils gardent une liberté, entre autres dans leurs avis, parce que ça c'est une chose extrêmement importante. Bon, on a été obligé de se plier. La Corse a pris son indépendance, au moins sur le plan. Hein. Et puis, ce qui est aussi intéressant, c'est que les Antilles... j'ai fini. Les Antilles... ont maintenant leur conservatoire après des bagarres d'égo sans pareil. Mais voilà. Donc voilà. Bon, moi, j'avais d'autres petites choses à vous dire, mais enfin, j'arrête. Donc voilà cette difficulté qui existe maintenant pour les jardins botaniques français et uniquement français, parce qu'en Suisse, par exemple, à Genève, c'est jardin botanique et conservatoire. Jardin et conservatoire botanique, pardon, donc, mais il n'y a qu'en France, où les jardins botaniques, à mon avis, ont raté le coche de la flore indigène en étant omnubilés, comme au XIXe siècle, sur la flore exogène, les missions à l'étranger étant plus lucratives, enfin lucratives non, mais plus payantes sur le plan personnel que celles à faire autour de son propre laboratoire. Voilà, merci, puis excusez-moi.
Merci beaucoup pour ce vaste panorama historique et cette jonction ultra-contemporaine.